Bonjour mes amis, aujourd'hui je pense que c'est journée numéro 23. Imagine, on a fait 23 jours ensemble et dans une couple de jours, vous allez rencontrer ma femme, Denise, elle est incroyable. Elle va vous aider vraiment à finir les 40 jours pour devenir de meilleurs leaders. Puis pour moi, c'est un des meilleurs leaders au monde. Elle est incroyable. Toutes les semaines, elle a une étude biblique avec peut-être 500 à 700 femmes. Elle est tellement formidable. Elle a une onction de Dieu et je suis très fier d'elle. En tout cas, on va rentrer aujourd'hui, on va parler de comment éviter les pièges relationnels. Parce que quand tu décides que tu dis oui à Dieu pour être un leader et tu veux guider les gens dans les terres promises, tu veux changer des entreprises, changer l'Église, les communautés, tu veux aller au-devant des autres et les aider à rentrer, il y a des pièges aussi. Il y a des temps et des pièges qui pourraient nous trébucher et c'est des pièges qui sont très communs pour les leaders. Alors, j'aimerais souligner ces pièges-là pour qu'on évite de tomber. On a vu assez de leaders tomber. On a vu assez de pasteurs ou de politiciens tomber. On a vu assez de gens qui ont tombé moralement ou en point de vue d'éthique. Et j'aimerais que vous aider de ne pas tomber. Et c'est une de mes prières pendant ces dernières 30 ans de ministère, c'est « Seigneur, aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à ne pas faillir. Aide-moi, Seigneur, à simplement être un bon mari, un bon papa, un bon pasteur et un bon leader. Seigneur, aide-moi. » Alors, gloire à Dieu, il m'a aidé et je le remercie. Mais j'aimerais vous donner des petites sagesses ici pour vous aider à éviter ces pièges-là. Premièrement, les gens de les professions en relation d'aide ou les relations de leadership sont souvent tombés dans des pièges relationnels très nuisibles. C'est important, je le lis parce que c'est important. La capacité d'aider les gens peut se révéler souvent intoxique, hein, parce que c'est une position de puissance. Hein? Tout à coup, on peut être intoxiqué par cette position-là. Cela donne aux conseillers, aux psychologues, aux pasteurs, aux travailleurs sociaux, aux leaders, un sens irréel de puissance ou d'importance. Je me rappelle, j'étais un conseiller, j'avais un grand centre de relations d'aide avec 17 personnes avec des maîtrises qui aidaient les familles blessées et les gens. Et je me rappelle, là, j'étais le chef, j'étais le patron, tout le monde me respectait. J'avais une émission de radio, les gens m'appelaient à travers le monde pour des avis. Alors, je me sentais pas mal important, mais j'allais chez moi, Paul, sors les poubelles. Mes enfants, j'étais seulement papa. Ma femme, j'étais un mari. Et c'était comme... là, j'étais un homme puissant, mais à la maison, j'étais normal. Et des fois, c'était dur d'accepter. Je voulais être traité comme un roi au lieu d'être traité comme un humain. Alors, il fallait vraiment que je m'adapte à ça et que je l'accepte. Et je ne voulais pas trébucher sur cette piège-là. Des fois même, on se voit comme des chevaliers dans une armure étincelante. On se voit comme cette chevalier-là, « Oh, je vais sauver tout le monde! » Capable de venir au secours de la foule abattue. Malheureusement, il y a des conséquences de ces tendances de la vie pour les gens comme nous autres. Des fois, on néglige nos familles. Et c'est ça que j'ai fait au début. Je négligeais ma famille. Des fois, on a besoin des dépendances. On crée des dépendances inappropriées. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont tombé moralement parce qu'ils ont tombé en amour avec quelqu'un qui l'aidait. Des relations extra-conjugales, comme j'ai mentionné. Ou même des stagnations émotionnelles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la réalité. Quand je suis un pasteur ou avec 700 volontaires bénévoles, 170 employés, tout le monde, la télévision, toutes les choses que je fais, les gens me regardent, waouh, c'est le champion. Mais vraiment, je suis une personne très, très normale. Demande à ma femme, demande à mes enfants. Et cet sens de puissance peut vraiment devenir piège pour toi. Et là, tu commences à éviter ta famille pour te mettre plus dans le boulot ou dans le ministère ou l'entreprise. Tu commences à te perdre vraiment. Dieu ne veut pas faire de nous des sauveteurs. Il veut nous utiliser pour que nous dirigions les gens vers lui. Personne ne devrait être dépendant sur moi. Il devrait être dépendant sur Jésus. Même Jésus a dit une fois, Quelqu'un a dit, oh, bon maître. Jésus a dit, il n'y a personne qui est bon, excepté pour mon Père. Même Jésus a dit ça. Nous ne pouvons devenir la réponse à tous leurs problèmes, mais nous pouvons leur apprendre à prendre des décisions saines et solides avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens qui me demandent, pasteur, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je peux t'aider à trouver les options, à clarifier les options. Et c'est toi qui dois prier. C'est toi qui vas faire les décisions parce que c'est toi qui vas vivre avec les résultats. Vous comprenez que si moi je donne toutes les réponses, c'est moi qui est responsable. Et c'est moi qui me mets dans une position de sauveur. C'est moi qui me mets dans une position où je vais recevoir crédit pour les bonnes choses. Oh, merci, pasteur, merci. Non, non, remercie-moi pas. Je veux te bénir, je veux t'aider, mais c'est toi qui fais les décisions. C'est toi qui vas faire les pas que tu vas prendre. C'est toi qui vas faire les changements et c'est toi qui vas vivre avec les résultats. Pour moi, la meilleure analogie, c'est d'être un entraîneur ou un coach pour les gens. Si tu regardes des entraîneurs de football, c'est pas eux qui vont couper, qui vont donner des coups de pied à la balle. C'est pas eux qui vont courir. Souvent, ils sont pas dans la condition physique pour le faire. Ils sont trop vieux. Ils ont gagné trop de poids. Ils sont trop faibles pour courir et frapper la balle avec leur tête ou se combattre avec quelqu'un d'autre de l'autre équipe. Un entraîneur, c'est un coach. C'est quelqu'un qui donne des avis. C'est quelqu'un qui leur montre quoi faire, mais ils ne peuvent plus le faire. Alors, comme pasteur ou leader, notre meilleure analogie pour moi, c'est on doit être des coachs. On ne doit être pas des gens qui disent quoi faire, mais montrer des options. Tiens, allez-y, fais ta décision. Cours, frappe la balle, fais les efforts. Je peux te montrer des principes bibliques, mais c'est toi qui fais les décisions. Alors, j'aimerais juste vous donner 6 choses importantes pour ne pas tomber dans les pièges. Premièrement, vous ne pouvez pas jouer le jeu. Vous êtes un coach. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Il a donné des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des professeurs. Pourquoi? Pour équiper le corps du Christ pour faire le ministère. Je ne devrais pas faire le ministère. C'est moi, je suis appelé à équiper les autres pour le faire. Alors, je ne suis pas le joueur, je suis simplement un coach. Deuxièmement, mais j'ai remarqué plusieurs églises qui ne grandissent pas, c'est parce que le pasteur fait tout. Et il est épuisé. Et malheureusement, c'est un des pièges. Peut-être qu'il se sent important, et même peut-être il y a un peu de rancune contre les autres parce qu'il fait tout. C'est une sorte de martyr. Vous ne devez pas le faire. Vous devez trouver les gens pour le faire et les former, les lancer dans le ministère pour la gloire de Jésus et pas pour ta gloire. Ni, tu n'es pas un martyr. Tu es dans un marathon, mes amis. On veut vraiment durer. Deuxièmement, vous devez faire confiance à d'autres coachs qui ont des habiletés uniques pour préparer les églises. Ça, c'est important. Puis je pense que je vais terminer avec ça, puis je vais continuer notre sujet demain, parce qu'il y a tellement de viande, il y a des filets mignons ici. Est-ce que vous allez former des gens qui te suivent ou vous allez former d'autres leaders? Vous pouvez additionner des gens à votre église en formant des gens qui vont faire le boulot. Ou vous pouvez multiplier votre église et votre ministère et votre entreprise en formant des leaders qui vont former d'autres leaders, qui vont former d'autres leaders. Depuis 10 ans, je voyage aux Indes. Et on a une jeune fille ici, Debbie, que c'est la fille d'un pasteur aux Indes qu'on est partenaire dans le ministère. Et on a vu des changements dans l'église, là. C'est incroyable. Il y avait 50 personnes quand on est devenu partenaire et maintenant, ils ont à peu près 3, 4, 5 000 tous les dimanches. Et c'est incroyable les choses que le Seigneur fait à travers de ses parents. Et pour moi, c'est un bonheur que je n'ai pas formé un homme qui me suit, j'ai formé un homme qui forme d'autres leaders. C'est formidable. Je suis tellement fier de lui. Puis je leur dis toujours, vous n'avez pas besoin de moi maintenant. J'ai déjà fait mon boulot. Tu es formé, forme les autres. Et je vais venir te visiter tous les couples d'années juste pour dire bonjour comme un grand-papa. Ils n'ont pas besoin de moi. C'est fun. c'est parce que j'ai fait mon boulot. J'ai fait la vision de former des leaders qui vont former d'autres leaders. Vous regardez, et quand j'étais aux Indes il y a plusieurs années, j'étais allé à Chennai. Et à Chennai, il y avait une... j'ai trouvé la place où Thomas a prié. Thomas, celui qui a douté. Thomas, celui qui a même questionné le Seigneur. Et j'ai trouvé l'impact de Thomas. Vous savez, aux Indes, la place où il y a le plus de chrétiens, c'est au sud, Chennai, dans la région. Ça, c'était fondé par celui qui doutait, mais qui a été transformé. Et maintenant, moi, je n'ai pas besoin d'aller aux Indes, c'est Yvan qui le fait. C'est lui qui le fait maintenant. Et c'est lui qui forme d'autres leaders qui le font aussi. Et pour moi, ça, c'est la gloire de Dieu. Ça me donne plus de joie que si les gens étaient devenus dépendants sur moi. Vous comprenez? OK, on va continuer demain parce que c'est un sujet que je réalise que c'est trop profond pour simplement le faire en 12 minutes ou 10 minutes. Je vous aime tellement. Quand est-ce la dernière fois que je vous ai dit que je vous aimais? Dites à tous vos amis de venir à Top Formation pour devenir de meilleurs leaders. C'est pour tout le monde, c'est pas juste pour toi. Appelle tes amis, va sur Facebook, dites-leur de venir ici. Parce que c'est gratuit, c'est un cadeau de Eric et Top Chrétien, c'est un cadeau de moi parce qu'on vous aime. Et je vais souvent en France, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, aller à Francophonie 2020, parce que ça va vous donner toutes les dates où vous pouvez me trouver. Et même à Top Chrétien, il y a des dates où je vais être là. Alors, regardez les deux sites d'Internet, Francophonie 2020 et Top Chrétien, pour trouver la prochaine fois que je vais être en France. Je suis là souvent, au moins 3 fois par année, et j'aimerais vous serrer la main et encore transférer les vérités et l'onction de Dieu dans ta vie. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.